Bonsoir chers auditrices et chers auditeurs d'FM+. Bonsoir. Il est 21h, nous sommes mardi soir, c'est l'heure de la lecture des textes écrits à l'atelier d'écriture radiophonique de FM+. Alors on a planché et maintenant c'est le moment où on vous restitue ce qu'on a écrit pour vous ce soir. Avec par ordre d'apparition, Pierre Lune, Christine, Nicole, Carolina, Marie, Adrien et Nanou. Alors Pierre Lune, c'est à toi.
Je n'ai jamais aimé le repassage. Parfois il faut bien. Ce jour il le fallait. Veille de mariage, joli petit chemisier blanc à dentelle, tout fripé bien sûr. Sans conviction, je sors le matériel, file dans la prise, j'attends que ça chauffe. L'anthologie de poésie japonaise m'attend. La couverture est jolie, avec ses estampes graciles. Je me demande si les japonaises repassent, elles aussi. La vapeur crache maintenant. Allez, venue sur l'étoffe. Allez, venue sur l'étoffe. Allez, venue sur l'étoffe. Tout ça est-il bien utile? Ça m'a valu ma pire honte d'enfant. Quand la famille est grande, on use ses vêtements jusqu'au bout, se refilant les chaussettes d'enfant à enfant, de pied à pied. Ça m'a valu ma plus grande honte quand la fille de l'instit en classe maternelle m'a dit que ma mère ne repassait même pas mes chaussettes. Je les revois, mes pauvres chaussettes en accordéon, sur mes chaussures, tant l'élastique était usé. Et cette petite conne, la fille de l'instit, Madame Champignon, dont les chaussettes blanches impeccables, dressées comme des fourches, venaient serrer ses genoux dans une enveloppe durcie d'amidon. Je ne sais pas si les japonaises amidonnent leurs chaussettes. Odeur de brûlé, fin de chemisier. On verra demain. Ça me rappelle quelque chose, cette odeur de brûlé. Quelque chose de pas banal. Je revois la petite quincaillerie de quartier, mon gamin tout juste 4 ans à la main. Il y avait un joli poêle dans ce Capharnaüm, un gros cylindre de faïence marron avec une gueule devant qui crachait le feu. C'était l'hiver. Je m'étais mise devant et je regardais ce Capharnaüm. Quand une petite voix crie « Maman, maman, je veux celui-là !» C'était un martinet avec des lanières de toutes les couleurs. Et le petit n'avait pas du tout l'air de savoir à quoi ça servait. Les clients se poilaient de rire et moi je sentais une odeur de brûlé. C'était mon bel imperméable violet qui faisait l'admiration de tous, fondu dans le dos. J'ai acheté le martinet. J'avais honte, mais j'avais ma conscience pour moi. C'est idiot le regard des autres. C'est tout un chemin pour s'en libérer. Je suis partie de la petite quincaillerie, les deux mains dans le dos pour cacher le gros trou. Mon petit, le martinet à la main. Tant pis pour le regard des autres. Je me demande si les japonaises ont des martinets et qu'il l'a inventé. Sonnerie, il est 18h. Je range tout décidément. J'aime vraiment pas repasser.
Merci Pierre Lune. Merci Pierre Lune. Les chaussettes des japonaises sont-elles amidonnées? Alors, Christine. Christine, c'est à toi.
L'inspecteur Burnaby marchait d'un pas rapide dans la rue. Il était de fort mauvais poil. L'orage grondait, les premières gouttes commençaient à tomber et bien entendu, il n'avait pas de parapluie. À quoi bon ? Il marchait sur la voie réservée aux piétons, mais se fit klaxonner par un vélo. Il écarta les bras, fit l'épouvantail. Le vélo tenta de l'éviter, se prit la roue dans les rails du tram. Le cycliste chuta, se heurta la tête sur une pierre. La tête en sang, il se mit à jurer. Mais Burnaby ne l'écoutait pas, il avait d'autres chats à fouetter. Il sortait d'un interrogatoire, il n'avait pas dormi depuis 5 jours. Le suspect, un grand gaillard d'1,90 m au moins, doté d'une épaisse chevelure blonde, ne s'était pas laissé démonter. Ni la déshydratation, ni le manque de nourriture, le sevrage de tabac ou le manque de sommeil ne l'avaient fait craquer. Burnaby n'avait rien. Son seul espoir était la perquisition de la maison. Il s'arrêta de l'autre côté du pont, devant une bâtisse laide, humide, le nez plongé dans les rochers de la montagne. Il posa son pied, vêtu d'une lourde godasse, sur le seuil de la porte en bois et rompit le scellé. Il connaissait ce genre d'intérieur. Il y trouverait des canettes de bière, des boîtes de pizza en carton, des boîtes de conserve de salade de fruits qui jonchaient le sol, une montagne de vaisselle sale dans l'évier. Mais, à sa grande surprise, rien de tout cela. L'intérieur était bien rangé, même si la déco était quelque peu singulière. Miroirs fêlés, masques, posters, fers à cheval, des revues sur la table basse du salon. Furieux, l'inspecteur fouilla partout. Pas un livre, pas une page, pas un vinyle n'échappa à la perquisition, pas même les orchidées sur le bord de la fenêtre. À la cuisine, il ouvrit tous les placards, inspecta chaque verre, chaque tasse, renversa les boîtes de sucre, de farine et de café sur le sol. Rien. Pas le moindre indice. Même la poubelle avait été vidée et remplacée par un nouveau sac. C'était à devenir fou. Il ne restait que l'aquarium. Il attrapa le poisson rouge avec un peu d'eau dans un verre et de sa main droite alla grailler sous les gravillons et les plantes aquatiques. Toujours rien. Dépité, il aurait pu pleurer, mais un homme ne pleure pas, encore moins un inspecteur. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il commença à tout ranger, remit les livres sur les étagères, posa un 45 tours de jazz sur le tourne-disque, empila les revues. Il arrosa même les plantes. C'était schizophrène, il le savait, mais ça lui permettait de mettre de l'ordre dans ses pensées, d'éviter l'asile psychiatrique et les électrochocs. Parfois même, ses gestes étaient source d'inspiration. Il alla jusqu'à mettre de l'eau fraîche dans l'aquarium avant de déposer le poisson rouge dans sa demeure. Il voulut même le nourrir de quelques vers de terre, mais la boîte avait été éventrée par le bas et les vers de terre se mirent à ramper sur le sol. Il en attrapa quelques-uns et les regarda droit dans les yeux. « Je finirai bien par trouver quelque chose », leur dit-il. Puis il les offrit en festin au poisson rouge affamé qui se régala. Il lui sembla même que celui-ci lui fit un petit sourire de reconnaissance. « C'est du délire !» s'exclama-t-il. Au moment de quitter la maison, il reposa le pied, par hasard, sur le seuil de la porte. Il lui sembla alors que la planche avait bougé de manière à peine perceptible. « Ah, c'est malin, ça » jubila-t-il. « Pas dedans, mais en dehors de la maison. » Il piocha dans sa poche à la recherche de son couteau suisse, ouvrit la plus grosse lame et souleva la planche. Fébrilement, il composa un numéro sur son portable. « Faites venir les chiens, immédiatement » hurla-t-il. La fin, vous pouvez l'imaginer ou pas.
Merci Christine, le sourire du poisson rouge. sourire en coin du poisson rouge de l'inspecteur Barnaby. Merci beaucoup, Christine. Alors, Nicole. Nicole, si tu veux, c'est à toi.
Ce soir, on sort. Petit village ardéchois, au milieu de la plaine du Chassezac, les Cévennes à l'horizon. Vignes et vergers se bousculent le long des routes, transformées en rivières lorsqu'il pleut. Ce soir, il fait beau. Sur la place, un cirque a planté son chapiteau, au bord de l'eau. Sur la place aussi une auberge, dans un recoin pierreux, sous la frondaison de vignes enchevêtrées de lierre. Les patrons prennent l'apéro, trois amis venus de Paris, qui ont décidé d'acheter ce mas et de se reconvertir en cuisinière, en serveur, en aubergiste. À côté d'eux, un homme écrit, penché sur la table. Il parle assez fort, comme une sorte de litanie, un truc en boucle qui peu à peu s'impose dans le décor. Je lui ai dit « compte tes doigts, je lui ai dit « compte tes doigts, mais ne compte pas sur moi !» Et il reprend l'air important, voix éraillée, qui a déjà trop crié. Une voix qui se délivre, mais de trois phrases, et puis c'est tout. Les patrons se sont mis à chanter. Celle au visage solaire, crâne rasé, piercing dans le nez, bat la cadence du pied. La cuisinière se tortille de joie sur l'air de flamenco qui s'élève dans le soir qui descend. Jusqu'où descendra-t-il ? Semble se demander le troisième, l'aubergiste. Stylé, raffiné, affairé à récupérer les notes de musique s'échappant sur le sol, glissant sous les pierres, jusqu'au muret où apparaissent, en file indienne, les animaux du cirque qui démarrent la parade. Autour d'eux, danseurs, jongleurs, clowns, tout le cirque est là. On entend sa fanfare, les cris des acrobates, les ronronnements d'animaux exotiques. Ça brame, ça braie, ça grogne, ça couine, ça tambourine. Un vaste capharnaüm qui a désormais pris la possession de l'espace, mais qui avance au bord de l'eau, tambour battant, comme un seul cœur, dans un seul mouvement. Un acrobate, sur son petit vélo, fait des saltos avant, arrière, applaudi par le défilé tout entier. Et soudain, salto glissant, salto trop long, plouf, dans l'eau. Et toute la parade s'engouffre derrière lui, trompettes jetant leurs notes comme au temps du jugement dernier. Bientôt, hommes, femmes et animaux ont tous disparu dans la rivière tumultueuse. Le calme est revenu sur la placette. Même les patrons ont fini leur apéro et se dirigeant en grand vers la maison familière. Et moi, hébété, je reste là, à côté de l'homme qui écrit, qui râle, qui crie, qui murmure sa drôle de litanie. Je lui ai dit « compte tes doigts, je lui ai dit « compte tes doigts, compte tes doigts, mais ne compte pas sur moi !»
Ah si, moi, Nicole, je compte sur toi. Je compte sur toi, Nicole. Je compte mes doigts, mais je compte sur toi. Merci, Nicole. Alors, Carolina s'est installée confortablement. Et c'est à toi.
Cet étrange monsieur était là tous les jours, très discret et pourtant tellement visible avec ses longues dreadlocks brunes foncées. Au second étage de la bibliothèque, il s'asseyait sur le fauteuil en faux cuir bleu qui donnait sur l'énorme baie vitrée. Dehors, les feuilles les plus hautes se frôlaient entre les arbres. Sur les jambes du monsieur était posée une pile de bandes dessinées. Il lisait l'une d'entre elles avec une grande attention. « Partout Tatis, regarde !» Richard tourna la page, mâchonnant étrangement, curieux de voir ce que le petit Gaulois montrait du doigt. « Oh, chic, 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 des Romains !» Le cœur de Richard palpitait. Il allait y avoir de l'action. Il attrapa la gourde attachée à sa ceinture et but d'une traite, laissant sa pomme d'Adam proéminente faire des allers-retours incessants au milieu de sa gorge. La flasque vide, il la jeta en arrière, s'essuyant négligemment la barbe dégoulinante de potion. Puis, il se releva d'un coup, prêt à partir au combat. La bibliothécaire à la longue natte dorée regardait son héros avec des étoiles dans les yeux. Richard tira l'épée de son fourreau et la brandit courageusement. Les lecteurs assis près de lui s'étaient arrêtés dans leur lecture et attendaient que le vieil homme vaillant les défende contre leur ennemi commun. Il se lança dans une course effrénée dans le long couloir bordant la vitre, évitant de justesse parents et enfants en quête de nouvelles histoires. « À l'attaque !» Les Romains, par centaines, couraient eux aussi dans sa direction. Ils pensaient qu'il s'agissait là d'un fou, d'un suicidaire, d'un détraqué. Aucun ne se doutait de la force surhumaine qu'il avait acquise. Les deux camps étaient persuadés de leur victoire à venir. Richard fonça dans le tas tel un bœuf enragé et frappa dans tous les sens, projetant violemment ses ennemis dans les airs. Les uns après les autres, ils atterrissaient sur les étagères avec fracas, renversant au passage des monticules de livres, de magazines et de BD. Les soldats édentés, effrayés, se cachaient tremblotants en dessous, priant de ne pas être vus. Les lecteurs et bibliothécaires acclamèrent Richard, vainqueur indiscutable de cette bataille sans merci, qui retourna fièrement à sa place et reprit silencieusement sa lecture tant appréciée.
Merci Carolina, il faut apprécier sa lecture, c'est vrai. Alors, vous êtes à l'écoute de FM+, le 91 sur la bande FM à Montpellier et sur l'internet absolument partout ailleurs. Et donc, vous pouvez venir, renseignez-vous sur les réseaux sociaux, en tout cas tous les mardis à 21h. C'est le moment de la lecture. Et maintenant, c'est Marie. Marie, c'est à toi.
Un matin, deux personnages, trois raisons de prendre la route pour une balade urbaine. Fort de ses résultats d'analyse positifs, contrairement à ce qu'il imaginait, Paul avait chaussé ses vieilles baskets marron, espérant qu'elles ne blesseraient pas ses chevilles, déshabituées à la marche. Malgré un emploi du temps millimétré, élaboré afin de remplir le vide de son existence, Jeanne glissait sa gourde d'eau citronnée dans le sac à dos ISPAC bleu accroché au porte-manteau de l'entrée. Les voilà donc, maison close, arpentant la ruelle de leur quartier, en route vers... Et la troisième raison ? Ah oui, la troisième raison. Une visite à 11h30 pétante, importante, nécessaire, essentielle, incontournable. Ils marchent, main dans la main, les corps s'entrechoquent parfois, les bouches se parlent. Te souviens-tu du Vesuvio Café à San Francisco ? Mais si, c'était dans les années 70. On était attablés au fond près du piano. Je ne sais même pas s'il était accordé. Je me rappelle simplement de tous ces livres empilés par terre. Kerouac, Brautigan, Burroughs. J'avais dit que je les lirais et je n'ai même pas tenu ma promesse. Peut-être Kerouac, parce que tu avais insisté. Non, je me souviens pas. Le vent a trop soufflé sur le temps qui passe. Douce brise, des bons jours qui effacent la trace, et longue nuit de tornade qui détruit la mémoire du passé. Viens plutôt. Regarde l'eau en contrebas. Des pierres, un semblant d'écume. Le vert de la rivière s'est enfui, tu ne trouves pas? Et où sont les truites? Et où est ma canne à pêche, Jeanne? Sais-tu où grand-père a rangé la canne à pêche? Dans le grenier, dans le robinet, dans le placard à balai? Grand-père était un enfant à blague. Il aurait pu mettre la montre de sa sœur dans le congélateur. Heureusement, il n'y avait pas de congélateur à la maison. Ah, chez toi aussi? Viens, Paul, écoute l'oiseau, là-bas dans ce domaine abandonné. On dirait Willard. Rappelle-toi Willard, l'oiseau en papier mâché du Vesuvio Café. Il était si drôle. Je ne l'avais jamais vu, ce domaine, à la fois ouvert et délaissé. Et toi?
Domaine ouvert et délaissé. Willard, l'oiseau en papier mâché. Ah, que d'imaginaire. Adrien, tu m'as l'air totalement prêt. Alors, c'est à toi.
Le ciel se transforma en une rose. Et même les nuages devinrent jaloux. Les oiseaux chantaient, alors que les arbres paniquaient. Les hommes riaient jusqu'à pleurer et les vents jouaient. Une musique que les êtres humains ne peuvent comprendre. Les êtres humains paniquent et crient à l'aide. Alors que la nature pleure et que les animaux fêtent cette paix éphémère. Les nuages se stoppent, le temps s'arrête et la vie sur terre recommence son cycle de vie. Les animaux ont repris le pouvoir, les humains se cachent, leur puissance est devenue inférieure à celle des animaux. Les animaux récupèrent leur terrain perdu et se vengent. Des humains qui ont détruit leur habitat et tué leurs semblables pour le simple plaisir de le faire sans respecter l'animal. C'est une vérité que l'on peut imaginer, sachant que l'être humain peut chasser pour le plaisir sans non plus respecter l'être vivant en face de lui. Au début, les humains chassaient pour se nourrir et s'habiller. À présent, ce n'est plus comme ça. À présent, nous chassons pour le plaisir et nous pouvons en tuer certains dans des conditions ignobles. Alors, pourquoi? Ils ne pourraient pas faire la même chose avec les êtres humains. Nous pouvons imaginer que les animaux dotés d'une intelligence reproduisent ce que faisaient les humains à leurs semblables.
Merci Adrien. Ça saigne, c'est de la boucherie. Merci Adrien. Alors Nanou, c'est à toi.
Sur la façade de l'hôtel de ville, un petit singe de bronze, assis, l'air étonné et souriant, attend que les passants viennent lui caresser la tête. C'est là que j'habite, juste au coin de la rue. Et Dieu sait si je l'ai caressé, cette tête de singe, mais aussi les bras, les jambes, les pattes et même le zizi de ce petit chimpanzé ridicule au crâne poli et repoli dont le bronze s'est lissé, tanné, poli, qui ressemble à une chimère, à un avatar pathétique, au regard perdu. Et pourtant, en mai 1940, Simone, juste avant la guerre, est passée par là. Son petit-fils, Hector, reçut, quelques jours plus tard, une notification de démobilisation. Il ne devait pas partir au combat, car son nom de famille avait été tronqué, mal orthographié. Il était exempté, sauvé. Hector entreprit alors de partir aux États-Unis pour parcourir ce nouveau monde à la rencontre de Bill Winston, un spécialiste des singes qu'il avait examiné et exploré dans le monde entier. Hector acheta, pour l'accompagner dans son périple, un petit singe Funga qui le suivrait partout. Arrivé à Los Angeles, il fut ébloui par la largeur des routes et l'immensité des choses, des rues, des villes, des palmiers, des fantômes, des statues, des théâtres, des arbres, ébloui par la vitesse des trains et la force du vent. Il se sentait anodin et quelconque, et Simonin, le petit singe sur l'épaule, baptisé de la sorte en hommage à sa grand-mère Simone qui lui avait sauvé la vie, lui semblait minuscule. Il ne parlait pas l'anglais, mais les Américains, par essence expansifs, hospitaliers et accueillants, venaient systématiquement vers lui pour caresser la tête de Simonin, car Hector avait pris la peine d'expliquer que c'était au sommet de ces quelques poils hirsutes que se trouvait le secret du bonheur. Il parcourut la 101 dans une fabuleuse Mustang décapotable, avec Simonin perché, poils hirsutes en plein vent, sur le sommet de sa tête. Les escales sur cette route fabuleuse lui firent rencontrer Mary, qui guérit instantanément de son cancer après avoir effleuré Simonin, puis John, sur le point d'être expulsé de son vieil appartement, qui gagna au loto le mardi qui suivit sa petite caresse sur la caboche du petit singe jaune. Puis vint Jimmy, qui reçut une lettre d'embauche le lendemain du jour où il prit un café avec Hector et Simonin, en approchant du Golden Gate, là où Janet, juste après avoir tendu la main vers l'animal, tomba nez à nez au coin de la rue sur l'amour de sa vie qu'elle n'avait pas revu depuis 15 ans. On a bien sûr cousu deux costumes, queue de pie et chapeau-claque pour Hector et Simonin, témoins de la noce. Je vous parlerai bien de Harry, qui rata son avion après la soirée passée avec nos deux compères. Je vous en parlerai bien parce que cet avion manqué s'est écrasé tout de suite après le décollage. Mais si je vous en parlais, je devrais aussi vous raconter les histoires fabuleuses de Paul, Jane, Amy, Michael, Loris, Jerry, Simons, Williams, Mick, Collins, Oliver, Roman, Debbie et tous les autres. Mais ce serait trop long. Et puis, je ne suis pas certaine que vous me croiriez. Mais si vous doutez du pouvoir d'Hector et Simonin, qui se sont finalement installés en Californie pour conjurer le mauvais sort des pauvres gens, passez donc par San Francisco, au cœur du quartier français. Cherchez la place Louise et la seule maison blanche qu'elle abrite. Arrêtez-vous un instant, posez la main sur la tête de l'effigie en bronze du petit Simonin. Fermez les yeux et puis wait and see.
Yeah, merci Nanou. Ah, Debbie. Mike, Debbie. Ah. C'est beau l'Amérique. Yeah, merci Manu. Alors, merci Nanou. Merci Carolina, Pierre-Lune, Marie, Nicole, Adrien et Christine qui se cache derrière la vitre. Ah, formidable. Nanou, tu veux dire quelque chose ?
Pascal.
Ah, c'est gentil. C'est gentil de votre part. C'est très gentil. Alors, je vous ai piqué des mots, comme d'habitude. Et alors, vous les retrouvez sur le podcast, les mots. Je les écris. Alors, je vous ai piqué. La poésie japonaise se fait klaxonner par un vélo dans un recoin pierreux. Il va y avoir de l'action malgré un emploi du temps millimétré et la nature qui pleure, polie et repolie. Et voilà, chères auditrices, chers auditeurs, on vous souhaite une bonne fin de soirée à l'écoute de la station. La nuit, c'est toujours très agréable d'écouter la musique. Et on se retrouve, nous, mardi prochain à 21h. Et si vous voulez venir écrire, renseignez-vous, c'est tout à fait possible. À bientôt!